Puis on enchaîne avec la suite des programmes 106,6.
Radio Campus Lille, il est 16h.
Et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine pour Musicopie.
C'est Captain Boogie sur Radio Campus. Et je leur souhaite de bien souffler leurs 45 bougies. Rock and roll, baby.
Le COSIM Nord-Pas-de-Calais organise la deuxième édition de la journée du co-développement le samedi 26 avril à la Halle au Sucre à Lille.
En partenariat avec l'association Réciproque et Radio Campus, au programme Village associatif, conférence débat et le prix CODEV 2014 décerné à l'OSIM lauréate.
Nous vous attendons nombreux le samedi 26 avril à la Halle au Sucre à Lille à partir de 9h30. Et pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le www.cosimnpdc.org.
Chaque mercredi entre 16h et 16h30 sur Radio Campus Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Lille Info, un magazine de Radio Campus réalisé en partenariat avec l'Université Lille 1, une émission qui vous informe sur la vie, les études et les grands axes de la recherche universitaire.
Et en ce mercredi 23 avril sur Utrich sur Twitter, c'est toujours Doc Map qui remplace l'ami René Lavergne, parti par Mons et par vous, mais en tout cas vous apprécierez la continuité programme sur 106,6, c'est donc la tenue en direct de l'émission Lille 1 Info. Avec aujourd'hui, eh bien aujourd'hui il y a quand même un grand moment pour le fonctionnement des universités et la recherche, notamment accompagnée aux jeunes chercheurs.
Je voudrais d'abord qu'on applaudisse très fort mademoiselle Lorissa Wagia de l'Université de Lille 1, Institut de Biologie de Lille, qui a fait une thèse en biologie-immunologie. C'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Bon, parce que j'en ai dit beaucoup déjà. Sous la direction de Nadira Delem. Et qui fait une thèse dont le titre est le suivant: rôle des lymphocytes trigulateurs humains dans la dérégulateurs humains, voilà, donc déjà ça commence très mal pour moi, dans la progression de la pathologie liée à l'infection par le virus de l'hépatite C.
Et on va pas écouter en fait toute la vidéo, bien qu'en définitive ma thèse en 180 secondes, ça ne dure que 180 secondes. Mais chère autrice, chère auteur, dans le cadre de Lille 1 Info, ce mercredi 23 avril sur 106,6, il est 16h passé de 3 minutes, nous recevons la lauréate en personne, Lorissa Wagia. Bonjour Lorissa.
Bonjour.
Alors, ça vous rappelle de sacrés souvenirs, tout ça ?
Ah oui, ça me rappelle de très très bons souvenirs.
C'est une bonne chose, dites-moi. Et notre seconde invitée ?
Donc, Laurence Duchien. Je suis donc au collège doctoral et je suis responsable donc de toute la partie formation complémentaire des doctorants.
Mon Dieu, que je me sens extrêmement petit et modeste face à mes très beaux invités. Bien, mesdames, tout un programme. Donc, on va profiter de votre présence pour revenir à la fois en fait sur ce concours, ma thèse en 180 secondes, son sens, je dirais même pas, on ne me permettrait pas de dire son intérêt, parce que l'intérêt est évident et on va le développer en quelques instants sur les ondes 106,6, mais en fait son sens pour soutenir la recherche, et Dieu sait que n'importe quel pays, mais la France, je pense, n'est pas n'importe quel pays, a besoin en fait des chercheurs pour eh bien poursuivre tout ce qu'elle a déjà donné et ce qu'elle peut encore donner à nos voisins européens, par exemple, dans le contexte des élections européennes qui arrivent lentement mais sûrement le 25 mai, mais également, bien sûr, en fait, aux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Ici, une jeune chercheuse dans la présence, en fait, de Lorissa Wagia, qui embrasse, bien, je pense, une belle carrière en devenir. Et là, c'est clairement, en fait, la santé de ceux qui souffrent de l'hépatite C, en fait, qui sera particulièrement au centre en fait de ces recherches. C'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Mon sujet de recherche, en fait, il consiste à étudier les différentes interactions entre ce virus et l'hépatite C qui touche énormément de personnes en France et dans le monde. Les interactions entre ce virus et les cellules immunitaires.
Votre sujet de thèse, c'est parti d'où ?
L'histoire de mon sujet de thèse, il est parti en fait du fait qu'en France, énormément de personnes souffrent de l'hépatite C, mais surtout au Cameroun, vu que je suis originaire du Cameroun, où plus de 14% de la population souffre de l'hépatite C.
Mon Dieu, que c'est conséquent.
Oui, c'est très très conséquent. Et vu que le Cameroun est un pays en voie de développement et les traitements habituels utilisés dans les pays occidentaux ne sont pas encore tout à fait à la portée de tout le monde, d'où était l'intérêt d'étudier ce virus-là et d'essayer de trouver des traitements alternatifs.
Donc un cheminement personnel alors ?
C'est premièrement personnel, mais en plus je suis arrivée dans une équipe, l'équipe dirigée par le docteur Nadira Delem, mm-hmm. qui travaillait déjà sur des cancers viraux induits. Et en cancer viraux induits, cette équipe travaille déjà sur le carcinome hépatocellulaire, le cancer du foie, qui peut être lié ou induit par le virus de l'hépatite C. Mais elle travaille aussi sur le carcinome du nasopharynx, qui peut être induit par le virus d'Epstein-Barr.
Mais est-ce que vous aviez d'autres idées de thèse, en fait, lorsque vous avez rencontré cette belle équipe, ou est-ce que c'est vraiment l'opportunité que vous avez saisie au vol et dans laquelle vous êtes parfaitement démontré à l'aise, vu votre statut de lauréate ?
Au départ, oui, j'avais quelques propositions de sujets de thèse via d'autres directeurs de laboratoire. Mmh. Je me suis particulièrement intéressée à celui-ci à cause du fait que dans mon pays d'origine, plus de 14% de la population souffrait de cette maladie. Donc c'est vraiment une démarche personnelle qui m'a amenée à accepter le sujet que le docteur Nadira Delem me proposait.
Oui, parce qu'en définitive, on sait combien c'est complexe pour des étudiants qui décident de se lancer dans la recherche, de faire le bon choix de thèse avec la bonne personne et que ça puisse en plus porter les fruits que ça porte actuellement pour vous.
Il faut savoir que la recherche, c'est vrai, est un processus complexe et long. Donc une thèse, officiellement, ça dure 3 ans et 3 ans à travailler sur la même chose. Il faut vraiment être passionné et persévérant dans ce que l'on fait pour que ça porte les fruits à la fin de la thèse. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Déjà, je suis déjà passionnée par ce que je fais. Je suis persévérante et j'espère qu'à la fin de ma thèse, d'ici un an et demi, que les fruits, on les verra.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, mais j'insiste, hein, avant de rentrer dans les questions très techniques que vous avez eu la gentillesse d'ailleurs en fait, de nous envoyer par l'intermédiaire de Rosemary Carbonel. Rosemary, bien sûr, si vous nous écoutez, on vous salue bien fort au passage. Heureusement que vous avez envoyé les questions, parce qu'il va de soi qu'en fait, du fait de mon bagage en sciences dures assez limité, voire même, pour ne pas dire inexistant, malheureusement, en fait, ça n'aurait pas été moi qui aurais pu préparer ces questions tout seul, mais j'insiste, nous sommes dans un contexte de réduction des budgets, de resserrement en fait de l'argent disponible à la recherche. Malheureusement, droite comme gauche, nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas l'intérêt pour préparer l'avenir en fait d'investir dans la recherche. Faut quand même pas oublier que si mes invités ou nos auditeurs, et vu que c'est le média de la radio, en fait, bien sûr, nos auditeurs auxquels je pense en fait se souviennent des années 90. Lorsque la crise asiatique a touché de plein fouet nombre de pays, dont le Japon, au plus fort de la crise, que faisaient les autorités et le gouvernement japonais ? Et d'augmenter les crédits à la recherche. Nous, en France, quand tout va bien, on limite les crédits à la recherche, et quand tout va mal, on essaye en fait de pousser les chercheurs à partir. N'oublions pas, et là en fait j'insiste, que ce n'est pas un tacle personnel à M. Sarkozy, mais n'oublions pas que M. Sarkozy avait même tenté de supprimer le CNRS au début de son mandat. Donc vous voyez bien en définitive que, là je vous salue et je vous dis en fait, mais quel courage vous avez en fait de vous lancer là-dedans, quoi.
Oui, vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, je laisserai Madame Laurence Duchien discuter un peu plus en détail de ça. Et c'est vrai que lorsqu'on se lance dans la recherche, on réfléchit aux perspectives d'avenir et on ne sait pas si derrière, on aura des postes ou des possibilités de travail. C'est vrai que tout récemment encore, les budgets de la recherche, comme vous le dites, sont en train de diminuer. Oui. Et on ne sait pas si à la fin de la thèse, on aura du travail. C'est très, très compliqué. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le travail que nous faisons maintenant portera ses fruits pour améliorer le quotidien des hommes de la Terre entière dans le futur.
Ah, mais vous prêchez un convaincu. Après, c'est au-dessus de nous que ça se passe. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Et beaucoup plus facile, en fait, d'aller chercher du pétrole. Qu'elle est financée, la recherche dure. Si vous le permettez, on va rester avec Laurissa, histoire d'avoir une transition toute faite avant de revenir à des choses plus globales. Et je vous interrogerai également longuement, cher invité. Rentrer un peu plus dans le détail de votre thèse. Vous avez fait la très bonne démarche en 180 secondes. On va peut-être pas en fait bouder le plaisir de vous avoir en notre présence. Merci. Je ne vous ferai pas en fait l'affront de rediffuser bêtement la vidéo qui est toujours en ligne en fait grâce au très bon travail de nos collègues de Lille 1 qui font vraiment un travail absolument remarquable de mise en ligne des vidéos. L'argent public est très très bien utilisé contrairement à ce que nombre de journalistes et d'hommes politiques le disent. Après parfois c'est mal utilisé, mais là quand même faut reconnaître qu'il y a du très bon boulot. Et ainsi, en fait, dans la perspective des MOOC, sachez que si vous voulez avoir accès à différentes conférences, vidéos et en fait la prestation de Laurissa en ligne, eh bien c'est faisable tout bêtement en allant sur le site de Lille 1, l'université de Lille 1, et en cherchant tout bêtement l'onglet des vidéos. Donc allez-y, on vous laisse nous expliquer avec le temps que vous voulez, bien plus que 180 secondes. Rassurez-vous, je serai un jury particulièrement en fait complaisant en termes de gestion du temps. Expliquez-nous en fait avec vos mots en quoi consiste exactement votre recherche.
Je vais commencer. Je vous remercie déjà de me donner cette occasion.
Nous sommes là pour ça.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon sujet de thèse en fait consiste à étudier les différentes interactions qui peuvent exister entre le virus et l'hépatite C d'une part et des cellules immunitaires d'autre part.
Peut-être me permettez-vous de vous interrompre, de rappeler ce qu'est l'hépatite C pour certains de nos auditeurs et auditrices qui auraient oublié la particularité de cette maladie.
Oui, vous avez tout à fait raison. L'hépatite C est une maladie du foie qui touche environ 185 millions de personnes dans le monde. Et en France, à peu près 1,3% de la population est infectée. Et il faut savoir que c'est une maladie qui tue 350 000 personnes par an dans le monde. Donc c'est une maladie assez grave. C'est une maladie qui, lorsque des personnes sont infectées par le virus de l'hépatite C, la plupart des personnes vont développer, ce seront asymptomatiques, donc ne développeront pas la maladie, n'auront aucun symptôme. Seuls 10% des personnes qui seront infectées développeront la maladie qu'on appelle hépatite C, qui part d'une phase aiguë, donc de 0 à 6 mois juste après l'infection, vers une phase chronique plus de 6 mois après l'infection. Et sur ces personnes qui vont évoluer vers la phase chronique de la maladie, 20% vont guérir spontanément. Et comment va se faire cette guérison? En fait, il existe dans notre organisme, principalement dans le sang, de petites cellules qui constituent notre système immunitaire. Et ces cellules vont aider à défendre l'organisme contre toutes les agressions et donc contre le virus. Donc, ces cellules sont constituées des lymphocytes, des macrophages, en gros des globules blancs et des globules rouges, voilà, pour simplifier.
Parce qu'en général, tout le monde a appris au moins à l'école.
Voilà, globules blancs, globules rouges. Et il faut savoir que chez ces 20 personnes, comme je disais, ils vont guérir spontanément grâce à leur système immunitaire, donc grâce à ces cellules, ces globules blancs. Sauf que chez les autres patients, chez les autres personnes, il faudra un traitement. Et chez les 80% qui restent, 62% vont pouvoir répondre, c'est-à-dire être guéris par le traitement qui leur sera donné. Et communément, le traitement, c'est de l'interféron et de la ribavirine. Chez ces 80%, seuls 60% vont répondre au traitement, mais 20% seront résistants. C'est-à-dire que même malgré le traitement, ils ne répondront pas, donc ils continueront à évoluer, la maladie continuera à évoluer. Et chez ces 20%, l'évolution de l'hépatite, qui est une inflammation du foie, d'où son nom hépatite, va conduire à une cirrhose du foie. Et la cirrhose peut évoluer en cancer du foie plus tard. Et de la primo-infection jusqu'au cancer du foie, c'est sur une période de 20 à 25 ans. Donc c'est vraiment une maladie qui, si elle n'est pas traitée et si elle n'est pas dépistée très tôt, peut conduire au développement d'un cancer. Et nous savons très bien que le cancer, c'est vraiment l'un des risques de mortalité le plus élevé dans le monde. Donc le but de ma thèse consiste à étudier quels sont les facteurs ou quels sont les mécanismes qui peuvent contribuer à l'évolution de la maladie, de l'infection, jusqu'au stade du carcinome hépatocellulaire ou du cancer du foie. Et c'est là tout l'intérêt des lymphocytes régulateurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé des globules blancs et des globules rouges.
Oui.
Sauf que c'était imagé parce que les globules blancs, on en distingue, il y a différents sous-types de cellules compris dans ces globules blancs-là. Mm-hmm. Lorsque vous êtes infecté par un virus ou le virus de la grippe, par exemple, mm-hmm. vous avez de nombreuses cellules qui constituent les globules blancs, oui. qui vont venir au niveau de l'infection lutter contre le virus. Mm-hmm. Sauf que si ce phénomène de lutte n'est pas maîtrisé, les cellules vont attaquer les cellules saines du corps humain et causer d'autres maladies. Donc il faut bien qu'il y ait des régulateurs qui vont bloquer cet événement. Et c'est le rôle des cellules régulatrices. Donc les cellules régulatrices sont des cellules qui ont pour rôle de limiter l'action des autres cellules pour qu'elles ne s'attaquent pas au tissu sain du corps humain. Et on imagine bien qu'en cas d'infection par le virus de l'hépatite C, la plupart des globules blancs vont venir lutter contre ce virus, mais que les cellules régulatrices, de leur côté aussi, vont venir limiter l'action des autres cellules. Et en limitant l'action de ces cellules, on peut penser, nous imaginons, qu'elles favorisent, sans le savoir, la persistance du virus dans le corps et dans l'évolution de la maladie, du stade d'infection chronique au stade de cancer du foie.
Mais comme souvent en temps de guerre, vu que là c'est une guerre à l'intérieur de notre organisme, il y a des traîtres, parce que j'ai travaillé hein, l'interview. Hein. Donc allez-y. Alors vous avez utilisé donc le mot de trahison de certaines cellules régulatrices.
Oui, c'est ça. Il faut savoir que les cellules régulatrices ne sont pas simplement des traîtres au sens littéral du terme qu'on peut l'entendre. En effet, lorsque une femme est enceinte, lorsqu'une femme attend un enfant, ce sont ces cellules régulatrices qui vont favoriser la tolérance du bébé dans le ventre de la mère. En effet, l'embryon est considéré par le corps de la maman comme un corps étranger. Et pour éviter des fausses couches ou que la maman, que le bébé meure avant la naissance, il faut que ces cellules régulatrices soient là pour limiter justement l'action des autres cellules qui voudraient attaquer l'embryon. Donc, elles ont plutôt un rôle favorable dans certaines situations. Et de deux, lorsque l'on vous fait une greffe, lorsque vous avez une greffe d'organes, de mm-hmm. cœur, de foie ou de poumon, l'organisme considère cette greffe comme un corps étranger.
D'où les possibilités de rejet.
D'où les possibilités de rejet. Et justement, l'un des rôles des lymphocytes T régulateurs ou des cellules régulatrices, c'est justement de limiter l'action, de tuer toutes les cellules qui voudraient s'attaquer au greffon et qui... Et ainsi, elles évitent le rejet. Donc, c'est encore un deuxième rôle très important des cellules régulatrices. Ça, ce sont les rôles positifs des cellules régulatrices dans le corps humain. Néanmoins, comme je vous dis, elles peuvent être traîtres quelquefois. Et l'une de leurs façons d'être traîtres, c'est que, en s'attaquant aux cellules, aux globules blancs ou aux cellules en général, qui permettent de lutter contre les virus et qui permettent de lutter contre la maladie, en fait, elles favorisent le développement du virus. Elles favorisent l'installation du virus. Et si elles favorisent l'installation du virus, elles agissent un peu comme des traîtres pour l'organisme, vu qu'au départ, elles limitent l'action des cellules qui sont en train de défendre l'organisme contre des agressions. D'où leur nom de traître.
Mais c'est très bien, justement, en fait, ça donne beaucoup de sens et ça permet une grande compréhension à un très large public, malgré l'aspect, il faut le reconnaître, technique, mais c'est la moindre des choses pour une thèse. Hein, parce que si une thèse était d'une simplicité enfantine, à quoi ça sert de faire une thèse? Alors justement, nous parlions, si je ne vous interromps pas dans votre démonstration, en fait, donc de ma thèse en 80 secondes. Qui nous permettra de rebasculer en fait sur votre présence, Madame Deschiens. Vous avez été lauréate. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi avez-vous candidaté à ce concours? Ou comment ça s'est passé en définitive? Et qu'est-ce que vous en retenez depuis comme expérience? Et puis, il me semble qu'en fait, nous avons la finale en juin à Lyon.
C'est ça, le 10 juin.
Donc, vous êtes toujours en préparation, en fait.
Toujours en préparation, peut-être pas pour l'instant, mais toujours en préparation.
Alors, qui s'y colle, mesdames?
Je vais commencer, je vais laisser Madame Laurence Duchien terminer à la fin. En fait, le presse fait un travail vrai, extrêmement formidable. Il faut savoir que l'école doctorale biologie santé dont je fais partie, mm-hmm. nous avait envoyé des mails pour nous informer de la tenue d'un concours de vulgarisation. Mm-hmm. Parce que ma thèse en 180 secondes, c'est vraiment un concours de vulgarisation mm-hmm. qui permet aux étudiants d'utiliser des mots très simples, de simplifier leurs propos mm-hmm. pour pouvoir expliquer au plus grand nombre, surtout à ceux qui sont non avertis sur le sujet.
Ah bah, par exemple, les hommes politiques.
Et pour leur faire comprendre ce que l'on fait et surtout les convaincre de l'intérêt de la recherche
oui.
et de l'intérêt, de l'importance des chercheurs
ah oui, c'est vital.
Dans ce pays. Et comme je vous disais, l'école doctorale et surtout le presse nous ont relancé plusieurs fois dans des mails qui nous précisaient, qui nous informaient de la tenue de ce concours-là, ma thèse en 180 secondes, qui était organisé pour la toute première fois à Lille cette année, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et c'était un exercice qui faisait assez peur au début, il faut l'avouer. Parce que vous vous imaginez bien que faire une thèse en 3 ans et résumer ce que l'on fait en 3 ans en 3 minutes.
Oui, c'est cauchemardesque.
C'est cauchemardesque.
On est bien d'accord.
Ça, c'est l'un des premiers, des toutes premières difficultés que nous avions. Et en second, laisser son jargon scientifique, ces termes scientifiques que nous utilisons à longueur de journée dans des conférences, dans les séminaires, pour utiliser à la place des synonymes beaucoup plus simples, c'est une deuxième difficulté.
C'est une grande épreuve de pédagogie. Hein.
Très grande.
Oui. Et nous avons eu la chance, mais vraiment la grande chance, d'être accompagnés dans ce processus-là. Donc nous nous sommes inscrites, nous étions à 42 au départ, 42 candidats. Et ce que le presse a fait avec les écoles doctorales, ils nous ont donné des sessions de formation dont nous avons eu à côté de nous Géraldine Besson, Frédéric Lanstein et Nathalie Laspina qui nous ont formés pendant 2 journées à tout ce qui était procédure de vulgarisation, technique de vulgarisation, utilisation de mots simples pour faire comprendre un message. Ils nous ont vraiment aussi aidés dans la gestion du temps parce que 3 minutes c'était stressant. Vous imaginez bien que si vous stressez un tout petit peu, vous dépassez les 3 minutes et vous êtes éliminé.
Eh oui.
Donc on a vraiment été aidés dans ce sens-là. Et madame, vous pouvez...
Donc je vais compléter un petit peu. C'est un concours qui est organisé pour la 2e fois en France. Mm-hmm. Donc c'est un concours qui vient de l'Australie. Et l'objectif, c'est vraiment de vulgariser la science, d'amener le grand public, mais aussi donc, nos hommes politiques, à comprendre ce que nous faisons. Donc c'est un concours qui est organisé par le CNRS et par la CPU, donc la conférence des présidents d'université. L'année dernière, il y avait eu un essai avec la Lorraine, l'université de Lorraine, l'université de Liège en Belgique et l'université de Laval au Québec. Et c'est un Lorrain qui avait remporté ce concours. Donc on recommence cette année avec 15 régions et 23 universités en France. La Belgique, avec l'ensemble de leurs universités, le Maroc et le Québec. Donc, il y a une finale régionale qui a eu lieu le 8 mars, Lorissa est la lauréate. Il y a des finales qui ont lieu actuellement dans toutes les régions de France. Donc, il y a à peu près déjà 5
finalistes qui sont déjà sélectionnés. Et il y a des finales qui sont en cours cette semaine, les semaines d'après.
Voilà.
Jusqu'au 10 juin.
Oui, vous pouvez suivre. Donc, il y a une page Facebook, bien sûr, qui est dédiée à ces finales. Et puis, il y a aussi une page de la CPU hein, qui raconte, en fait, le processus. Donc, la finale régionale le 8 mars, la finale nationale le 10 juin à Lyon et une finale, quelque part, internationale, en français, à l'UQAM, donc à Montréal, le 23 septembre ou le 24 septembre.
Ou le 24 septembre, oui.
Voilà.
Fichtra.
Donc il y aura 3 finalistes français qui partiront à Montréal et qui seront financés par la CPU.
Ah bah, je trouve que c'est beaucoup plus enthousiasmant qu'en une coupe du monde de foot. Hein.
Tout à fait.
C'est gentil.
Et puis les retombées pour l'humanité sont nettement supérieures.
Voilà.
Bah, bon, ouais, ça n'engage que moi. Gilles, si tu m'écoutes, cher amateur de foot, personne n'est parfait. Gilles, qui est un de nos collègues de Radio Campus, rassurez-vous. Eh bien. Alors, vous avez parlé de presse. Qu'est-ce que le presse?
Alors, ça ne s'appelle plus le presse, ça s'appelle maintenant la commu.
Je suis quand même perdu là.
c'est la communauté des universités des établissements de la région.
D'accord.
Et donc, on regroupe les six universités régionales, plus l'ensemble des écoles.
C'est dans la logique de rapprochement des universités, le prolongement de la loi LRU.
Voilà. Le collège doctoral est donc un des services de la commu. Mmh. Et on regroupe les six écoles doctorales de la région, donc six écoles qui sont thématiques et qui regroupent 2500 doctorants qui font leur thèse dans la région et environ 550 soutenances par an.
Et oui.
Voilà. Et donc il y a deux services complémentaires. Un service complémentaire qui correspond à un département qui correspond aux actions internationales, qui permet aux doctorants de partir en fait en mobilité pendant la thèse, quelques semaines, quelques mois, dans un autre laboratoire pour en fait améliorer leur technique par exemple, rencontrer d'autres chercheurs. Et puis il y a un département qui s'appelle carrière et emploi que je dirige et qui en fait les accompagne dans l'insertion professionnelle après la thèse. Et donc on propose des formations telles que ma thèse en 180 secondes, des formations qui vont leur permettre de communiquer mais également de mieux connaître le terrain de la recherche mais aussi de l'entreprise.
Alors justement, si vous me permettez, quels sont actuellement en fait les débouchés pour les chercheurs que vous encadrez en fait à la commu?
À la commu. Alors les débouchés, bon, donc il y a le débouché essayer de rentrer dans un laboratoire, avoir un poste de maître de conférence, un poste de chargé de recherche. Donc beaucoup de doctorants espèrent, après leur thèse, avoir ce type de poste. Mais c'est aussi aller en entreprise, avoir un poste dans un service R&D, hein, dans un département R&D, mais aussi être consultant dans un cabinet de consultants, mais aussi à son compte. Donc c'est étudier un problème, et comme on a fait sa thèse et qu'on a étudié un problème à fond, normalement en fait on est capable de s'adapter et de passer sur d'autres questions que la question de la thèse au départ.
Oui, parce que, attendez, j'en profite pour recaser cette phrase quand même de Laurissa qui vaut son pesant de cacahuète. J'ai essayé de bien la caler pour des raisons radiophoniques. Hein,
Les cherches, il y en a, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà. C'est pas totalement faux.
Le petit trait d'humour quand même au milieu de ce travail de 180 secondes était bien pensé. On peut même peut-être se dire qu'il était bien calculé, non?
Oui, et je pense qu'il n'est pas très loin de la réalité. C'est vrai que des chercheurs qui cherchent, il y en a beaucoup, pas assez, mais il y en a beaucoup. Pas assez pour le travail qu'il y a à faire, bien entendu, mais il y en a beaucoup. Mais des chercheurs qui trouvent, il y en a un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on s'engage dans un processus de recherche, donc de travailler sur un sujet, d'acquérir toute l'expertise qu'il y a autour de ce sujet, les retombées et les débouchés, on ne les obtient pas forcément dans les 3 ans juste après. Il faut savoir, par exemple, lorsque nous travaillons, lorsqu'en thèse, pour ceux qui le font, lorsqu'on travaille sur des médicaments ou de nouvelles cibles thérapeutiques, nous faisons des tests au cours de notre travail de recherche, mais souvent après, il faut encore des tests sur des animaux, donc nous ne sommes plus là, il faut passer devant des commissions, et le médicament sur lequel on a travaillé, ou le sujet sur lequel on a travaillé pendant notre thèse, il sera peut-être exploité en des vues thérapeutiques, peut-être 10 ans après.
Et également la pression des laboratoires qui parfois retiennent des brevets parce qu'ils savent que plus tard ils auront en fait un retour de rentabilité exceptionnel. Mais pendant ce temps-là, mon Dieu, mais quel casse humaine. Et vous avez comment vous calculez vos retours en fait justement, parce que vous les lâchez. Il faut bien un moment couper le cordon ombilical avec ces jeunes et
ces
beaux
jeunes
chercheurs.
Donc on a un observatoire en région de l'enseignement supérieur qui régulièrement fait des enquêtes à la sortie de la thèse, mais aussi de 1 an après la thèse, 3 ans après la thèse et 5 ans après la thèse. Donc on a environ tous nos doctorants qui, à l'issue des 5 ans, sont vraiment intégrés, donc ils sont en général en CDI, CDI aussi bien dans le privé que dans le public. Mais il faut savoir que les 2-3 premières années après la thèse, souvent ils sont en post-doc et ils ont quelquefois quelques mois de galère, il faut bien le dire. Surtout s'ils veulent rester dans leur thématique, dans leur sujet. Mais ce sont des personnes qui sont vraiment super, qui sont adaptables, ambitieuses, rigoureuses, passionnées. Et la plupart du temps, elles trouvent leur voie sans problème.
Eh bien, Larissa, je suppose qu'en fait, vous êtes complètement dans le moule.
Complètement. Je pense que Larissa, c'est un très bon exemple.
Merci beaucoup, madame. Mais je pense aussi, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter, peut-être avec vous n'avez pas eu l'occasion de discuter les autres candidats, mais ça a été vraiment un concours vraiment extraordinaire. Déjà pour les retombées que nous avons pu avoir, parce qu'entre nous étudiants qui étions d'universités différentes, ça faut le dire, et de sujets différents, on a déjà pu discuter entre nous de savoir ce que les uns et les autres faisaient. Et surtout aussi, ça a été un très bon moyen de garder contact entre les différents doctorants des universités, de se faire un carnet d'adresses et de rester en contact.
Eh bien, dites-moi, je crois que c'est une bonne façon de conclure cette interview. Bien, espérons que justement vous puissiez défendre le mieux vos travaux en juin et puis peut-être
la finale
au mois de septembre.
À Montréal.
À Montréal, nous l'espérons.
Pendant l'été indien.
Je l'espère, merci.
Merci mesdames. Et,
merci.
On vous souhaite une bonne continuation à toutes deux.
Merci beaucoup, merci de votre invitation.
Campus, Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Quoi de Neuf, un magazine sur l'actualité culturelle régionale. Théâtre, danse, musique, festival, les programmateurs et les artistes viennent à la rencontre de vos oreilles et vous présentent leur actualité et leurs projets. Radio Campus, une radio où on prend le temps de dire les choses.